Retraite de Maraudrey, 1982.
Par le père Molinier.
La première instruction n'a pas été enregistrée.
Deuxième instruction, le 20 septembre 1982.
Mes messieurs, je voudrais d'abord m'excuser auprès de vous du jeu que nous jouons, et pas seulement m'en excuser pour la forme, pour la politesse, mais essayer de vous expliquer ce que j'ai moi-même du mal à comprendre, à savoir pourquoi nous sommes un peu acculés de part et d'autre. Le jeune père Simon, qu'on a l'habitude d'appeler lui ou les deux autres qui tiennent le même rôle auprès de moi, le jeune père, par opposition évidente au vieux père, ce jeu, j'ai du mal à le comprendre moi-même. Il paraît s'expliquer par des raisons humaines, mais c'est des raisons humaines qui n'en sont pas comme toutes les raisons humaines. Mais entre Dieu et nous, le Père et moi, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit lui, par exemple? Dieu lui dit, tu vas aller adresser la parole à la communauté. Il dit, je ne sais pas parler. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas la parole facile. Ah, ça, je vous garantis qu'il me l'a dit, hein. Ça, je l'ai entendu longtemps, hein. Je ne veux pas la parole facile, moi je ne veux pas parler. Exactement ce que dit Moïse. Allez voir dans la Bible, en toutes lettres. Mais vous, je ne suis pas très doué. Pas très doué, voilà. La parole, les belles. Et alors Dieu lui dit, mais il ne s'agit pas de prédication. Il ne s'agit pas d'avoir la parole facile, il ne s'agit pas de beaux discours. Il s'agit de ma parole. Et alors là, Moïse est mis au pied du mur. Et il comprend que les explications humaines, les excuses qu'il peut donner parce que il n'est pas doué, ça tient pas debout, puisque Dieu lui dit, je te donnerai toute la puissance qu'il faut, tu auras tout ce qu'il faut pour parler, t'inquiète pas. Et alors là, Moïse a ce cri du cœur qui est le cri des prophètes. Et un prédicateur peut être un prophète. Si c'est pas un prophète, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas compliqué. Écoutez, vous enverrez dire votre parole par qui vous voudrez. Hein. Alors là, il faut que Dieu se fâche. Et qu'il presse, Moïse. Urgence. Urget nos. Hein. Qu'il le presse. Alors, il y en a un, c'est encore beaucoup mieux. Lui, il a pris le train, plutôt le bateau. Pour se tailler, pour ne pas dire la parole de Dieu. C'est Jonas. Je ne voudrais pas dire la parole de Dieu. Alors là, j'ai pas du tout envie de dire la parole de Dieu. Hein. Et il a très bien compris ce qu'il faisait. Quand il a vu la tempête, il a dit au pilote, allez, arrête, n'insiste pas. Débarrasse-toi de moi, je sais d'où ça vient. Je le connais. Allez, mets-moi à l'eau. Et puis tous les prophètes, c'est un peu pareil. Élie, il fait des choses extraordinaires, puis quand il a fait ces choses extraordinaires, alors là, oui, je reconnais que je pense un peu à lui, non pas que j'ai fait des choses extraordinaires, mais j'avais des forces. Alors là, il s'assied au pied de son arbre, il dit, oh, je vois pas mieux que les autres, je suis pas meilleur que mes pères, je suis fatigué. Laisse-moi mourir et m'endormir avec mes pères. Et puis ça va bien comme ça de donner la parole de Dieu, hein, ça va bien comme ça. Oui. Alors au fond, c'est ça. Je n'ai pas envie, eux le jeune père non plus, et pour des raisons analogues, c'est parce qu'ils commencent tous les trois à s'apercevoir de ce que c'est que la parole de Dieu, que... À l'inverse, je vous disais, à l'inverse, pas à l'inverse, mais enfin un exemple complémentaire, différent, mais un petit peu complémentaire. Je vous disais, la prédication, c'est pas forcément la parole de Dieu. Bien, il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, et qui est beaucoup plus autorisé que moi pour le dire, parce que ce fut un grand prédicateur célèbre, qui est dans toutes les bibliothèques, les bonnes bibliothèques, sûrement dans la vôtre, notre grand Bossuet. Bien, notre grand Bossuet, invité à donner le carême à la cour de Louis XIV, comme je suis invité à donner les exercices spirituels à la communauté, n'est-ce pas ? Eh bien, il a prévenu, le mercredi décembre, je crois bien, à l'ouverture de carême, il a dit, vous savez, la parole de Dieu, je ne vous promets pas du tout de vous donner la parole de Dieu. De prêcher, ça se prêcherait. Alors là, je prêcherais. Je suis le grand Bossuet, j'y arriverai toujours. Hein, je connais mon rudiment, mon premier point, mon deuxième point, mon troisième point, vous les aurez. Mais la parole de Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle ne vient pas comme ça, la parole de Dieu. Elle ne vient pas sur commande. Ça dépend de celui qui l'écoute et qui la désire ou qui ne la désire pas. Bien. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que vous a dit le Père hier soir ? Oh ben, c'est extrêmement simple. C'est que la parole de Dieu, c'est toujours une invitation plus ou moins proche, plus ou moins pressante, plus ou moins grave, ou plus ou moins dilatée, lointaine quelquefois, oui, à entrer dans la joie parfaite. Par exemple, c'est bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Oh, que voilà une parole bien sympathique. Que voilà une parole dont à laquelle, pour parler français, beaucoup de religieux et de religieuses peuvent se dire, je serais bien content d'entendre ça un jour. Soit que vous caressiez des espérances d'avoir été déjà fidèle en peu de choses, quotidiennement, humblement, modestement, mais enfin tout de même correctement, on peut espérer ça. Soit que, pour des raisons objectives ou pour des raisons subjectives, vous ayez des inquiétudes, des scrupules, des tourments. Ai-je été fidèle? N'ai-je pas trahi? Dans les deux cas, on a l'impression qu'à partir du moment où on s'entend dire « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître », je vous demande pardon de l'expression que je vais employer, les carottes sont cuites. L'affaire est réglée et qu'on peut dire avec saint Paul, j'ai combattu le bon combat, il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de gloire préparée pour ceux qui ont été fidèles, justement. Alors, voilà, je me présente à la distribution des prix, entre dans la joie de trompette, mais bien entendu, mais grand nombre. Je ne demande pas mieux. Eh bien, je vous demande pardon, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que justement, au fond, le Père et moi-même, chacun à sa façon, nous essaierons de vous expliquer tout au long de cette retraite, je le sens bien. C'est que cette parole qui paraît ultime et ne plus poser de problème, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, c'est précisément la parole de Dieu en ce qu'elle a de plus redoutable. C'est celle-là dont l'Épître aux Hébreux dit qu'elle est un glaive à deux tranchants qui pénètre à la division de l'âme et de l'esprit et qui opère un jugement. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement ? Un jugement, c'est c'est un tri. C'est un discernement. On discerne les bons et les mauvais poissons. Et quand nous pensons au jugement, nous pensons que c'est Dieu qui fait le tri entre les bons et les mauvais poissons. Nous ne pensons pas assez, quelquefois pas du tout, que le tri, il a fallu d'abord que nous l'opérions nous-mêmes. Que c'est nous qui nous engageons en vertu d'un véritable jugement, c'est-à-dire d'une crise. C'est le sens étymologique grec du mot jugement. Crisis, criterium, critère. Vous voyez, tout ce qui est cet ordre-là. Critique, le sens critique. Tout ce qui est critique, ça veut dire une crise, ça veut dire une séparation que nous allons faire entre nous-mêmes et nous-mêmes. C'est-à-dire que nous marchons pendant un certain temps sur un certain chemin dans lequel nous drainons avec nous justement de bons et de mauvais poissons, si vous voulez, de bonnes forces et de mauvaises forces, ou même, nous y reviendrons, des forces bonnes mais imparfaites, et d'autres beaucoup plus redoutables par leur pureté, leur intensité, leur folie. Vous êtes sages dans le Christ, nous sommes fous dans le Christ. Prenez cette parole, Marie. Vous êtes sages dans le Christ, nous sommes fous dans le Christ. Bon. Alors, le contexte dans lequel elle est dite, ça fait l'effet de pas être drôle du tout. Bon. La manière dont il est fou dans le Christ, je ne prétendrai pas, moi, être fou dans le Christ. J'ai bien de la chance, il peut encore espérer être tenu pour sage dans le Christ, dans cette description. Hein? Alors, fou dans le Christ, sage dans le Christ, on est tenté de dire, oui, mais d'accord, mais alors pour être fou dans le Christ, alors là, c'est peut-être pas demandé à tout le monde, en tout cas, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, ni pour demain, on n'est pas pressé, bon, on dit tout ça, naturellement, très normalement, c'est humain. C'est ce que je dis, moi, en tout cas, je sais pas si c'est ce que vous dites, mais alors moi, c'est ce que je dis, hein, bon. Eh bien, je vous demande de rapprocher cette parole. Vous êtes sages dans le Christ, nous sommes fous dans le Christ. De la parole si rassurante, c'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, tu as été sage dans le Christ. Entre dans la joie de ton maître, c'est-à-dire, entre dans la folie de ton maître. Ça devient beaucoup moins évident. Voyez, cette parole de Dieu, beaucoup moins rassurant, ça n'est pas simplement une couronne qu'on va vous poser sur la tête pour vous dire « t'as bien agi », la couronne elle n'est pas inoffensive du tout, puisqu'elle nous fait passer de la sagesse à la folie dans le Christ, de la joie imparfaite que nous traînions, comme dit Jean-Angèle de Foligno, je perdis cet amour que j'avais traîné jusque-là, et j'ai été faite le non-amour. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? J'ai été faite quelque chose qui ne ressemble plus à rien de ce que j'appelle amour, et qui paraît-il s'appelle la joie parfaite. Alors effectivement, ça ressemble tellement à rien qu'il n'y a pas à s'étonner que François d'Assise dise, une fois qu'on a ça, on est complètement fou, le gardien nous met à la porte, il nous jette des pierres, etc. Mais c'est ça la joie parfaite, parce que justement, ça ressemble à rien. C'est la non-joie, au sens où j'ai perdu ce que j'appelais joie jusqu'à présent, et j'ai été embarqué. Alors embarqué dans la joie. Alors vous voyez comme les choses se retournent. C'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Quand on commence à comprendre un peu ce que ça veut dire, il n'y a pas. On a envie de dire à Dieu, vous avez... Je suis pas doué, hein. Vous trouvez pas trouver quelqu'un d'autre? Ça n'est pas drôle du tout. C'est beaucoup mieux que ça, mais c'est pas drôle. Et d'autant moins drôle qu'on a conscience soi-même, on ne peut pas essayer d'être entré du tout dans la joie de son maître. Oh là là. Et de ne pas être pressé. Et puis alors on rapproche ça encore d'une autre parole. La parole qui est la parabole des invités au banquet. Pas besoin de vous la décrire. Mais je ne demande pas mieux, mais certainement, mais comment donc? Mais bien sûr, laissez votre adresse, on vous écrira pour cette joie parfaite, quand on aura fini ce qu'on a à faire. Quand même. Parce que j'ai été fidèle à peu de choses, oui, mais enfin, mes comptes ne sont pas terminés. Il y a quelques bœufs, quelques vaches, quelques filles, quelques affaires. Bon, je règle ça, qu'est-ce que vous voulez. C'est très gentil de dire que j'ai été fidèle à peu de choses. Mais enfin, c'est sérieux tout ça. Alors, laissez-moi finir ça, tranquillement, et alors à mon heure, celle que je penserai sage, eh ben on verra. Voilà. Alors, cette invitation, cette parole de Dieu, elle opère un jugement, mais voyez quel jugement. Un jugement par lequel nous nous jugeons nous-mêmes, nous choisissons. Voilà. De nous mettre dans le chemin. Large, qui mène à la perdition parce qu'il ne veut pas écouter quelque chose qui le dérange. Il ne veut pas laisser mettre en déroute tout son petit système de vie et de pensée, tout son équilibre, toutes ses orientations, tout son... Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin... On y tient, quoi, quand même. Et là-dedans, il y aurait toute une panoplie à faire entre ceux qui sont contents d'eux et ceux qui sont mécontents d'eux. Les uns comme les autres sont tout aussi attachés à leur, encore une fois, leur système de pensée, leur système de vie, et au fond, la joie de ce monde, la joie de ce monde qui est peut-être bonne, je vais aller très loin dans quelques instants, avant de vous laisser dans ce sens-là, la joie de ce monde qui est peut-être bonne mais qui est imparfaite. Et il va falloir faire le grand saut qui va nous emporter ailleurs. Et c'est un jugement. Nous allons nous juger nous-mêmes selon l'accueil que nous ferons à cette parole de Dieu. Voyez, et cet accueil, alors là, justement, le Père a eu l'air de dire, hier, ça se fait une fois. Il est certain que dans la vie humaine qui est d'un autre, ça ne se fait pas une fois, ça se fait plusieurs fois. Mais ça se fait tout de même une dernière fois. Il faut bien qu'il y en ait une qui soit la dernière. Et c'est au fond de celle-là qu'il parlait. Mais je vais vous donner un exemple d'une foi qui n'était peut-être pas la dernière, mais qui est tout à fait typique du jugement que la visite de la parole de Dieu opère en nous à chaque fois. Bah, l'heure de la visite, comme il y a l'heure de la visite pour les prisonniers, bah, vous êtes dans une prison volontaire, le monastère, nous sommes dans une prison volontaire, les vœux de religion entre nous, eh bien dans cette prison, Dieu quelquefois nous visite, et à chaque fois qu'il nous visite, c'est la parole de Dieu, grève pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et qui nous dit, veux-tu entrer dans la joie de ton maître? Veux-tu aller plus loin? Et ça peut se faire à propos de très petites choses sur lesquelles, justement, on a beaucoup trop glosé depuis des dizaines d'années, à peu près, depuis 20 ou 30 ans, parce qu'on a vu leur côté social et qu'il faudrait voir leur côté métaphysique et théologique qui est infiniment plus grave. Je prends la parabole du bon samaritain. Et là, je m'appuie aussi sur une parole, je ne sais plus de qui dans le Nouveau Testament, ça doit être de Paul, mais je suis pas sûr, disant, pratiquez la charité, accueillez les malheureux qui se présentent dans votre vie, et qui vont peut-être un peu la bousculer d'ailleurs votre vie, il y en a qui ont accueilli des anges, sans le savoir, en accueillant ainsi ces malheureux. Et ce qui est essentiel dans cette affaire-là, c'est pas le mouvement du cœur, parce que le mouvement du cœur, nous l'avons tous. Comprenez, Dieu ne nous montre pas l'impossible, Dieu il n'est pas du tout cet homme austère et impitoyable que passez-moi l'expression, le gars de la parabole qui dit, je sais que tu es un homme austère, exigeant, qui sème ce qu'il a. Oui, alors là, Dieu le prend à ses propres paroles, mais c'est une caricature de Dieu, c'est pas vrai. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous demande pas d'avoir un cœur que nous n'avons pas. Ce cœur, nous l'avons, il est là. Le cœur de chair, au fond, nous l'avons déjà. Je vous enlèverai votre cœur de pierre et tout en un cœur de chair, mais en fait, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà, il suffirait de le laisser parler. Justement, il suffirait qu'il ne soit pas étouffé par votre cœur de pierre, que vous avez fabriqué, vous. Mais moi, ce que j'ai fabriqué, j'ai pas fabriqué un cœur de pierre. Moi, j'ai fabriqué un cœur de chair. Moi, Dieu, j'ai fabriqué un cœur de chair. Il est là. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous laisser toucher. C'est pas difficile de se laisser toucher. Oh, c'est extrêmement simple. Et même c'est agréable. Bon. Ah bon. Figurez-vous, c'est agréable. Je vous assure qu'on y goûte des satisfactions naturelles et surnaturelles bien plus grandes que de se durcir. Il est plus doux de donner que de recevoir. Alors quoi? Vous allez perdre à vous laisser toucher. Seulement attention. Il y a un obstacle. Alors ça, c'est vrai. Ça va vous déranger. Ah. Là est l'os. Là est le jugement. C'était un samaritain, plutôt. Non, c'était un juif, bien. Ben, le prêtre et le lévite qui sont passés le long du chemin, ils avaient un cœur comme le bon samaritain. Il serait venu à une autre heure, à un autre moment, dans d'autres circonstances, où ça ne les aurait pas trop dérangés, dans leur système de pensée, dans leur système de vie, dans leur horaire, dans leur voyage, dans leur programme. Mais ils n'auraient pas demandé mieux que de leur rendre service à ce pauvre homme. Ce ne sont pas des... Je trouve pas le mot, enfin, ce sont pas des brutes, ce sont pas des sauvages. Ce ne sont pas des bandits, ils savent qu'il faut pratiquer la charité, ce sont des juifs bien élevés, ils savent, mais ça colle pas bien. Bon. Et le samaritain, lui, le samaritain, il sait que c'est un juif. Alors ça va pas du tout, les juifs et les samaritains, ça colle pas, hein. C'est justement à propos de ça, la parabole. Enfin, qui est le prochain? C'est celui qui me dérange. Justement parce que c'était l'objection, les samaritains ne sont pas notre prochain. Bon, ben voilà un samaritain qui peut en dire autant que vous. Il passe le long de la route, il voit un juif qui est blessé, c'est pas son prochain, ça ne le regarde pas. C'est moi. il se laisse déranger dans ses idées. Et il laisse parler son cœur. Il se juge. Il se range du bon côté. Les autres se jugent et ils se rangent du mauvais côté. Espérons que ce n'est pas la dernière fois. Mais c'est grave. Se blesser était une parole de Dieu. Un glaive efficace à deux tranchants, pénétrant à la division, la moelle et de l'esprit, révélant les pensées secrètes des cœurs de ceux qui sont passés le long de la route, et révélant aussi de quel côté leur liberté allait faire son choix, son jugement. Signe de contradiction. Telle est toujours la parole de Dieu, et telle est pourquoi vous et moi, et nous en avons peur.